Sauf Jaurès, bien sûr. Mais lui, le maire a toujours dit qu'il était prêt à nous vendre au Kaiser et à ses Pruskos. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre à tout prix, mais je dis qu'il faut se défendre si on nous attaque, et ça ne va pas tarder. Quoi qu'en pense cet âne de Jaurès. Le père Delbos est pourtant du même parti que lui, avait relevé Marthe, qui, bien que peu au fait des choses politiques, entendait par les gens et ses amis. Oui, bien sûr, ils sont du même bord, avait-il dit en haussant les épaules. Mais tu sais ce que je pense de Jaurès et des autres, hein, moi. Je les mets tous dans le même sac. Il ne s'était jamais passionné pour la politique, et à l'entendre n'avait nulle envie de s'en préoccuper quoi qu'il arrivât. Et s'il votait pour Victor Delbos, socialiste et maire depuis bientôt 20 ans, ce n'était point par idéal politique, mais simplement parce que celui-ci, charron de son état et très compétent en la matière, n'était ni sectaire ni plus anticlérical qu'il n'était décent. Il était surtout un très bon gestionnaire, et la majorité de ses administrés ne lui en demandait pas plus. D'ailleurs, si Jean s'entendait bien avec le responsable de la commune, il avait aussi de bonnes relations avec l'abbé Fraisse. Il est vrai qu'ils étaient de la même classe et qu'ils s'étaient rencontrés et connus pendant leurs 3 ans de service au sein du 14e de ligne cantonné à Brive jusqu'à son remplacement par le 126e RI en 1907. Cela étant, pas plus que pour la politique, il ne s'intéressait à la religion. Et si, de même qu'il remplissait son devoir de citoyen lors des élections, il entrait à l'église pour les enterrements, ses engagements n'allaient pas au-delà de ses rares démarches. Lui, ce qui le passionnait, c'était sa terre, ses bêtes, son travail journalier, sa ferme. Ce qu'il appréciait pendant les veillées d'hiver, c'était les parties de belote coinchée avec les voisins et amis, ou, dès la chasse ouverte, d'aller traquer lièvres, perdreaux et bécasses dans les collines environnantes. Ce qu'il aimait enfin, et depuis toujours, c'était elle, Marthe, à qui il avait fait 2 beaux enfants. Elle qu'il adorait tant étreindre certains soirs avec une ardeur de jeune homme, lorsqu'il était certain que Louise et Albert dormaient, et que les ronflements de sa mère et de sa grand-mère, de l'autre côté de la cloison, lui prouvaient que personne n'entendrait les échos étouffés de leurs ébats. Et, à cette évocation, si précise et tendre, Marthe frémissait comme jadis lorsque, après avoir baissé au maximum la mèche de la lampe à pétrole, Jean chuchotait « J'aime te voir », avant d'ajouter « Tout le monde dort ». Et cette annonce suffisait pour que, déjà, elle se sente tout accueillante, tout amolie, partenaire et complice. Mais Jean était parti depuis 871 jours. Aussi, pour ne pas succomber à la détresse générée par cette absence, elle devait se faire violence pour chasser de sa mémoire toutes ces trop brûlantes sensations. Mais comment oublier les mains de Jean, qui, pour toute calleuse qu'elles fussent, devenaient la douceur même lorsqu'elles glissaient sur son corps, le redécouvraient avec une curiosité et une audace toujours renouvelées. Comment ne pas se souvenir des frissons que ses lèvres savaient faire naître, les si délicieuses et longues unions, et cette bienfaisante quiétude qui suivait, lorsque, comblés l'un et l'autre, ils reposaient côte à côte, pleinement heureux. Parce qu'elle savait d'expérience à quel point de telles images devenaient très vite douloureuses et déchirantes, elle tentait toujours de les chasser de sa mémoire, et pour cela cherchait à s'accrocher à d'autres pensées. Elle s'efforçait de reprendre le déroulement de tous ces mois accumulés depuis le départ de Jean. Alors défilaient d'autres images, et comme en ce samedi 1er août 14, résonnait aussi de nouveau le tocsin de Costeblanc, de Noailles, de Nespoul, du pays tout entier. Mercredi 20 décembre 1916, tranchée des revenants, 22h05. Malgré l'écrasante fatigue qui l'assommait, Jean Laval savait qu'il devait s'interdire de dormir. Mais il était tellement épuisé qu'il était obligé de se caler contre la terre ruisselante d'eau pour moins tituber. de s'installer, tant bien que mal, dans ce coin de tranchée, malgré l'épouvantable odeur, mélange de boue mille fois piétinée, et de cadavres dont il devinait çà et là, dans les proches boyaux effondrés, les pauvres et souvent grotesques postures. Et il se répétait qu'il ne fallait pas dormir, mais tout faire pour que sa tête reste droite, et ses yeux grands ouverts, attentifs à scruter cette nuit d'encre, toute chargée de nuages, qui n'en finissaient pas de déverser leurs flots de pluie. Il était là pour guetter et écouter aussi, car il savait que les ennemis étaient juste devant, peut-être à moins de 30 mètres, ou plus loin, ou plus près encore, mais en face, prêts à abattre quiconque serait assez inconscient pour se dresser à l'extérieur de ce boyau puant au bout duquel il veillait, ainsi que ses compagnons. Ils étaient là, non loin, à quelques 25 mètres pour le plus proche, tapis comme des taupes, et aussi transis que lui, grelottant de froid et de peur. Froid et peur, qui étaient pourtant insuffisants pour chasser l'insidieux sommeil qui allait le terrasser à la moindre inattention. Mais il le savait d'expérience, s'il cédait à la tentation, ne serait-ce que 3 secondes, de baisser la nuque et de laisser son menton se reposer sur le col de sa capote, il était perdu. Il allait, debout, sombrer dans ce sommeil tant attendu, dans ce repos dont il était privé depuis tant de jours. Combien d'ailleurs? Il en avait perdu le compte depuis longtemps, ce qui lui rendait encore plus vivace le souvenir d'une nuit complète dans un lit confortable, avec de vrais draps et des couvertures qui n'empestaient ni la moisissure, ni la crasse, et vide de toute vermine. D'une nuit avec Marthe lors de sa dernière permission. Certes, 3 semaines plus tôt, le 126e de ligne, désormais seul régiment de Brive, depuis que lui avait été attribué la totalité des réservistes du 326e, avait bénéficié de quelques jours de repos à l'arrière du front. Mais le cantonnement, pour calme qu'il fût, car loin des artilleurs allemands, n'en était pas moins une espèce de caravansérail, un agglomérat de ruines, de guitounes, de gourbis, sur lesquels, comme partout, chutait sans discontinuer une pluie glaciale. Malgré elle et l'inconfort des chalits, il avait quand même dormi, mais peu et très mal, car souvent dérangé par les hurlements des copains assoupis que visitaient d'effroyables cauchemars, ou bousculés par ceux qui regagnaient leur paillasse après avoir vidé quelques quarts de médiocre pinard, voire d'une mauvaise eau-de-vie, plus apte à déchausser les dents qu'à apporter quelques semblants d'euphorie. Aussi ressentait-il un besoin de dormir de plus en plus incoercible, mais qu'il devait pourtant dompter, maîtriser. Alors, faute de pouvoir se doper un peu en fumant cigarette sur cigarette, la moindre lueur émanant de la tranchée risquait de déclencher un tir de mortier ennemi en batterie dans le village de Barleu, seul lui restaient les souvenirs et la méditation. Toutefois, même avec les souvenirs, il savait devoir se méfier. Beaucoup étaient trop précis, trop doux, trop émollients, plus prompts à saper le moral qu'à entretenir la vigilance. Malgré cela, par petites touches, il jugeait bon et vivifiant de plonger dans le passé, de se remémorer quelques tranches de vie, quelques périodes de son existence. Mais elle lui paraissait alors si lointaine, reposante et paisible, que plongée comme il l'était dans l'enfer, elle devenait irréelle, inconcevable. Il savait pourtant que sa mémoire ne le trahissait pas, que chaque détail évoqué était vrai, précis. Ainsi se revoyait-il gamin dans l'école de Costeblanc, avec, aussi vif et espiègle que lui, les copains d'alors, Séraphin, Louis, Jules, Émile. Mais aussi et surtout lui apparaissait la silhouette de Marthe, cette petite fille aux nattes brunes qu'il avait tout de suite eu envie de mieux connaître, de protéger. Marthe qui, d'emblée, l'avait subjugué par son regard direct, franc, ses yeux marron foncé, son sourire lumineux, mais aussi son aisance à suivre et à retenir toutes les leçons de M. Delmont, leur instituteur. Car autant il était lui-même très souvent distrait et peu réceptif aux enseignements du maître, autant elle les retenait sans difficulté, avec une aisance qui le stupéfiait. Il était vrai qu'alors,